Pour la Journée internationale de la baleine, on a décidé de vous présenter un portrait de la situation dans les eaux du golfe du Saint-Laurent. Alors pour ce faire, je me suis entretenue avec Simon Nadeau, directeur de la science des mammifères marins chez Pêche et Océans Canada. D'entrée de jeu, M. Nadeau nous explique qu'il existe 6 espèces régulières de baleines dans le golfe du Saint-Laurent. Donc le petit rorqual, le rorqual commun, le rorqual boréal, le rorqual bleu, le plus grand mammifère de la planète, la baleine noire et enfin le rorqual à bosse. À cela s'ajoutent les plus petites baleines, dont le béluga du Saint-Laurent. Et on peut aussi observer la baleine à bec, mais elle n'est pas en abondance dans le golfe, selon M. Nadeau. En ce qui a trait à la protection de ces espèces, je laisse le spécialiste nous dévoiler lesquelles sont considérées comme étant en péril.
Il y a 4 espèces qui sont en danger. Celles qui sont en plus grand péril, si on veut, là, il y a la baleine bleue. Il y a moins de 250 individus dans la population du nord-ouest de l'Atlantique. La baleine noire, à peu près 366 individus. Le rorqual commun, peut-être autour de 1000. Le rorqual boréal, pas le rorqual commun, qui est en voie de disparition, mais on n'a pas vraiment d'estimé de population pour cette espèce-là. Entre autres parce qu'on peut la confondre assez facilement avec le rorqual commun, qui est la deuxième plus grande baleine du golfe. Puis on estime qu'il y a peut-être autour de 1000 individus pour le rorqual commun. Ça, c'est les 4 espèces qui sont en péril comme telles.
Quant aux espèces qui ne sont pas en péril, on note le petit rorqual dont on compte moins de 20 000 individus et le rorqual à bosse avec quelques 4 000 individus. Et comment savoir lesquels sont en danger ou non? C'est une question que j'ai posée au directeur de la science des mammifères marins. Selon lui, 2 facteurs nous permettent d'identifier une espèce comme étant en péril, à commencer par la taille de la population.
Selon les critères de l'Union internationale pour la conservation de la nature, là, à partir de moins de 1000 individus matures, l'espèce peut être considérée comme étant en péril. Puis plus ce chiffre-là diminue, donc ce qui est le cas là, par exemple pour la rorqual bleue et la baleine noire, mais plus on augmente la catégorie de risque là, jusqu'à en voie de disparition. Ça, c'est pour la taille de la population. Les espèces peuvent être aussi identifiées comme étant en péril si le taux de déclin, autrement dit, si le nombre d'individus chute trop vite par rapport à la capacité de l'espèce là, de se reproduire. Donc, c'est un autre facteur qui peut être utilisé.
Les causes du déclin des populations des baleines sont nombreuses, comme l'a expliqué M. Nadeau. Et puisque leur cycle de reproduction s'étale sur des années, elles en subiront, les conséquences durant de nombreuses décennies, comme il explique dans le prochain extrait.
Ce qui a affecté le plus toutes les grandes baleines, c'est la chasse à la baleine là, qui s'est finie là, dans les années 70. Donc, c'est ce qui a vraiment réduit de façon importante les populations. Puis comme c'est des espèces qui se reproduisent lentement, là, c'est par exemple la baleine noire là, peut avoir un jeune à tous les 5, 6, 7 ans. Là. Donc quand les populations sont réduites énormément, la capacité de l'espèce de rebondir rapidement est extrêmement faible. Donc on parle de rétablissement là, qui va s'échelonner sur peut-être des centaines d'années. Là. Donc, les populations ont été réduites énormément par ça. Après ça, il y a d'autres facteurs qui affectent le rétablissement des baleines. Donc, les baleines peuvent mourir là, quand elles sont frappées par des bateaux. Donc, si elles se trouvent dans les corridors de transport maritime, c'est un facteur de mortalité qui peut être sérieux. Elles peuvent se prendre dans des engins de pêche, puis finalement se noyer. Donc, ça, c'est un autre facteur de mortalité. Mais il y a aussi le manque de nourriture qui peut être dû à différents facteurs, dont les changements climatiques, puis les changements écosystémiques là, qui affectent l'ensemble de l'écosystème, qui peuvent avoir des effets en cascade sur toutes les espèces qui habitent l'écosystème, là, dont les baleines, puis évidemment les polluants aussi qui sont déchargés dans les cours d'eau qui se ramassent en mer, puis dans le golfe.
Par rapport au changement climatique, le spécialiste affirme qu'il est difficile d'identifier les liens de cause à effet relativement à l'impact qu'ils ont sur les baleines parce que les éléments à prendre en compte sont tellement nombreux qu'ils finissent par s'entrecroiser entre eux. Par contre, M. Nadeau illustre dans le prochain extrait à quel point un changement dans l'habitat de la baleine noire, par exemple, a fait en sorte qu'on commence à l'observer dans le golfe du Saint-Laurent.
La baleine noire qui se retrouvait pas vraiment au Canada, sauf dans la baie Fundy, puis le long du plateau néo-écossais, jusqu'au début des années 2000. Avec les changements climatiques, le réchauffement de l'eau, les changements au niveau des proies de cette espèce-là, la baleine noire a essayé de trouver des endroits qui étaient plus favorables à sa survie. Puis où les quantités de nourriture étaient meilleures. Fait que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à les voir là, dans le golfe du Saint-Laurent de façon plus abondante, puis maintenant de façon régulière là, depuis au moins 5 ans. Donc, c'est pas parce que la quantité de nourriture a augmenté dans le golfe, c'est en fait parce que la qualité de la nourriture dans le golfe du Maine et dans le Bitfundy a diminué.
Et pour dénicher des endroits correspondant à leurs besoins énergétiques, les baleines peuvent migrer sur de très, très grandes distances, comme le souligne le directeur de la science des mammifères marins.
On a mis des émetteurs, là, par exemple, sur des rorquals communs dans le coin de Tadoussac dans les dernières années. Puis on voit que ces grands mammifères-là se ramassent jusque dans les Antilles, là, vraiment très loin au sud. Ils peuvent faire ces migrations-là là, extrêmement rapidement. Là, on parle d'une semaine, 2 semaines. Elles peuvent se rendre là, puis elles peuvent revenir même le long des côtes canadiennes en quelques jours. On les appelle des grands migrateurs pour cette raison-là.
Pour ceux qui se demandent si des actions sont posées pour assurer le rétablissement des espèces en péril, Pêche et Océan Canada prend de nombreuses mesures pour protéger les baleines contre les empêtrements dans les engins de pêche, par exemple. Il ajuste entre autres les périodes de saison de pêche, mettant en œuvre des fermetures de zones de pêche saisonnières et temporaires aux endroits et au moment où les baleines sont présentes. Et il travaille également avec des partenaires pour éliminer de nos eaux les engins fantômes nuisibles. Les mesures dynamiques du Canada pour protéger les baleines noires de l'Atlantique Nord, pour ne nommer que ces espèces-ci, sont de classe mondiale, affirme Pêche et Océan Canada. Et le travail ne s'arrête pas là, puisqu'on annoncera entre autres dans les prochaines semaines les mesures à venir en 2022 pour la protection des baleines noires de l'Atlantique Nord. Des mesures qui portent leurs fruits, au dire de M. Nadeau, qui voit d'un œil plus optimiste la situation des baleines dans le golfe du Saint-Laurent.
Je dirais qu'on est plus optimiste qu'on l'était en 2017. En 2017, c'est là qu'il y a eu une mortalité importante. En 2019 aussi, il y a eu quelques individus qui sont morts dans les eaux canadiennes. C'était comme un signal d'alarme. On n'avait pas de gestion active ou de programme de science active sur cette espèce-là, mais on a augmenté nos activités et de recherche et de gestion de façon très, très, très significative. Là. Puis je dirais que dans les deux cas, là, on dépense énormément d'énergie et énormément de ressources à protéger, à détecter et à protéger cette baleine-là, ce qui semble avoir porté fruit dans les deux dernières années. Comme je disais, il n'y a pas eu de mortalité ou d'empêtrement détecté dans les eaux canadiennes. Donc, on espère que ça va se continuer. Puis il faut que ça se continue longtemps. Comme je disais tout à l'heure, là, c'est des espèces qui se reproduisent lentement. Donc, pour que les effectifs remontent, c'est un travail de longue haleine. Là. Donc, ça va sécher l'année sur des décennies. Là.
D'ici à ce que ce travail de longue haleine se réalise, donc le directeur de la science des mammifères marins invite les gens à observer les baleines dans le golfe du Saint-Laurent, entre autres à Tadoussac, où les activités sont encadrées afin de ne pas nuire aux espèces. Il informe aussi qu'on peut même les observer le long des côtes du golfe, dont en Basse-Côte-Nord. Les chances étant plus grandes à la fin du printemps, suggère-t-il. Évidemment, en janvier, moins de chances de découvrir les baleines le long de nos côtes. Une petite anecdote qui ne figure pas dans notre entretien, dans l'entrevue, mais que je trouve tout de même intéressante. Monsieur Nadeau nous a expliqué qu'on remarque depuis plusieurs années un narval, qui est une espèce de baleine de l'Arctique, qui normalement donc vit beaucoup plus au nord que dans le golfe du Saint-Laurent. Donc cet individu s'est associé à un troupeau de bélugas du Saint-Laurent depuis plusieurs années. Monsieur Nadeau explique que c'est une chose qui arrive, on les considère comme des animaux errants. Alors pour lui, c'est plus anecdotique, c'est pas un facteur signifiant d'un point de vue de conservation. C'était donc vos informations locales présentées par La Voix du Large en collaboration avec l'initiative de journalisme local.